Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro pour ce nouveau numéro de Sporama. Ravi donc de vous retrouver pour cette émission spéciale Sporama consacrée aux grands événements sportifs de l'année 2015. Comme tous les lundis, lundi soir, dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et bien sûr, nous attendons vos réactions en direct ici. Et c'est sur la ligne 001-202-619-31-40. Je répète, 001-202-619-31-40. Avec nous ce soir, les incontournables Jules Valentin Ngwe à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Et nous avons aussi à Boïcon, Élisée Mpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Bagassi et bienvenue au Bénin.
Voilà, et comme je l'ai dit, ce soir dans Sporama, on revient sur certains faits marquants, pas tous, mais certains faits marquants de l'année sur le plan sportif, notamment en Afrique. On commence, Jules, avec le début de l'année, en février, les éléphants de Côte d'Ivoire qui remportaient leur deuxième CAN après celle de 92. En finale, donc, les Ivoiriens ont battu, comme en 92, les Ghanéens, les Black Stars du Ghana, et c'était au tir au but. Cette fois-ci, 9 buts contre 8 à l'issue donc du temps réglementaire qui s'est soldé par un score de 0-0 après prolongation surtout. Et donc, Jules, votre première réaction sur cette victoire, deuxième victoire des éléphants à la CAN?
Oui, un ouf de soulagement pour les puristes qui jusque-là, ma foi, n'avaient que des larmes et de la désolation pour cette sélection riche sur le papier et qui jusque-là n'arrivait pas à concrétiser par un trophée majeur comme celui de la CAN, mais aussi de la tristesse pour les finalistes ghanéens qui avaient livré et probablement une meilleure performance en finale, mais qui étaient tombés au tir au but. Mais finalement, une grande rencontre qui a réjoui tout le monde et une grande Coupe des Nations aussi.
Oui, une grande Coupe des Nations. Élisée, une victoire sans Didier Drogba finalement.
Didier Drogba, ce qui pourrait permettre, pouvait permettre justement au Goliath de Chelsea de remporter au moins une Coupe d'Afrique des Nations après avoir perdu deux finales, donc c'est dire que les éléphants ont réalisé un parcours très bien, puisque déjà une phase de poule très difficile avant de se retrouver dans les matchs décisifs et de l'emporter de la plus belle des manières en battant le Ghana qui est derrière une Coupe d'Afrique des Nations depuis 1982, un bagage, il faut le signaler. Donc les Ivoiriens ont fait un coup parfait, donc Yaya Touré donc a perdu, ouais. Surtout un entraîneur qu'il ne faut pas oublier. Et c'est bien évidemment Hervé Guédard qui a déjà gagné cette CAN avec la Zambie et qui est venu en Côte d'Ivoire remporter cette CAN que les Ivoiriens couraient derrière depuis 1992. Et n'oublions pas aussi Bagassi Koura, l'organisation de cette compétition par la Guinée équatoriale, puisque ce n'était pas évident. C'était le Maroc qui devrait organiser cette Coupe d'Afrique des Nations et au dernier moment, pour cause de Bola, les Marocains ont désisté et la Guinée équatoriale a organisé en moins de 4 mois cette grande compétition africaine. Et il faut saluer ce pays et aussi saluer les éléphants qui ont bien disputé cette compétition en l'emportant, puisque c'était une génération dorée, comme disaient certains techniciens. Et cette génération a finalement remporté cette Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, Élisée, vous restez avec nous, de même que Jules à Libreville. Nous allons prendre notre premier auditeur. Il s'agit de Keïta à Bamako, Mali. Bonsoir. Bonsoir Keïta.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan sportif cette année-là?
Bon, quand même, c'est vraiment nombreux. Donc d'abord, je tire quand même mon coup de chapeau quand même au Gabon qui a quand même organisé la CAN quand même dans un délai quand même moins restreint. Aussi, quand même, ce que je regrette aussi.
Vous parlez de la Guinée?
La nation du Mali.
Oui.
Lors quand même du tirage au sort, quoi. Face à la Guinée,
oui.
Vous voyez. Donc, en dehors de ça, quand même, je tire quand même chapeau aux aiglonaux maliens qui ont été quand même troisième du monde. Et aussi, on a eu quand même le ballon d'or avec Adama Traoré. Et aussi, chapeau également au Cadet et à Baïva qui ont été quand même sacrés champions d'Afrique. Ensuite, ils ont été aussi vice-champions du monde aussi également, l'Afrique était à l'honneur parce qu'on a vu que la Coupe du Monde maintenant, c'est l'Afrique, c'est le continent africain qui était en finale. Donc le Nigeria et le Mali. Mais quand même, les chances étaient quand même aux côtés quand même, du Nigeria et le Nigeria vraiment a remporté. Ensuite, je reviens aussi au point quand même des clubs. Quand même, je salue aussi la performance quand même de TP Mazembe, où beaucoup de Maliens évoluent quand même dans ces clubs. Vraiment, quand même, l'actualité, quand même, elle est riche vraiment en 2015.
D'accord, merci. Merci infiniment et merci de rester à l'écoute de VOA Afrique. Élisée, je reviens à vous. Hein, notre auditeur Keita de Bamako parlait notamment du Nigeria, surtout en compétition des jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les performances de cette année-là des équipes des jeunes moins de 17 ans, moins de 20 ans du Nigeria? Élisée?
Seigneur, les Nigériens n'ont pas pu défendre leur titre, puisqu'il faut le rappeler, les Nigériens ont remporté la dernière CAN en 2013 du côté de l'Afrique du Sud. Et bien, ces Nigériens ont été éliminés par le Congo Brazzaville. Mais bizarrement, au niveau des catégories d'âge, et bien, oui, les Nigériens ont fait un carton, enfin presque un carton plein. Ils étaient seulement au niveau des moins de 17 ans. Ces Nigériens ont été battus en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, ils ont répondu présent lors du mondial qui a eu lieu au Chili. Et bien, les Nigériens ont gagné cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Maintenant, au niveau des moins de 20 ans, le Nigeria a gagné cette compétition et tout récemment, du côté de Dakar au Sénégal, eh bien, ces Nigériens ont battu l'Algérie en finale pour remporter la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qualificative pour les Jeux Olympiques qui auront lieu du côté du Brésil. Donc, c'est-à-dire que pour la catégorie d'âge, les Nigériens ont répondu présent, les moins de 17 ans champions du monde, les moins, ouais, de 20 ans, les moins de 23 ans, eh bien, ils ont remporté la Coupe d'Afrique respective. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même sauvé cette année, puisque je l'ai déjà annoncé en début, que les Sénégalais n'ont pas pu défendre leur titre, ouais, du côté de la Guinée équatoriale. Mais au niveau des catégories d'âge, eh bien, ces Nigériens ont répondu présent et ils ont confirmé le travail abattu depuis des années, depuis 1987. Eh bien, les Nigériens ont toujours répondu et présent au niveau des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.
Oui, et nous allons retourner sur le continent, au Sénégal cette fois-ci, pour retrouver Mamadou Houry Barry. Bonsoir Mamadou. Oui, et vous voulez revenir sur cette victoire des éléphants, hein? Oui, je crois que nous avons des difficultés à vous entendre. On va essayer de vous rappeler. On a vos numéros sous nos yeux ici. On va essayer de vous rappeler. Donc, et nous avons Léopold Kalongwa qui est en RDC ou c'est en Angola, je ne sais pas. Bonsoir Léopold.
Bonsoir. Oui.
Vous êtes où en ce moment? En Afrique du Sud?
J'habite en Afrique du Sud, forcément à Cape Town.
Voilà, et vous voulez parler des corbeaux?
Oui, des corbeaux, les tout puissants Mazembe.
Oui, allez-y.
Oui, j'aimerais vouloir parler de la chute libre de notre club, tout puissant Mazembe. Pour moi, j'avais vu que le coach Tartan, il avait un peu hésité. À la place de Kidiaba, il a voulu faire jouer les nouveaux gardiens. Et puis, à la place de Kalaba, il a fait jouer Divin Singuruma. Aussi longtemps que ce sont des joueurs qui ont cette compétition en jambes, je ne sais pas si tu avais un peu vraiment hésité à faire cela. Pour moi, c'est la raison pour laquelle le TP Mazembe n'a pas pu vraiment gagner même un seul match.
Oui, vous parlez là de la Coupe du Monde des clubs, hein, où le TP Mazembe est sorti, je crois, dernier. Hein?
Dernier, oui.
Oui. Mais ils ont quand même remporté la Coupe continentale, la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, oui. Au sein de notre club Mazembe, nous avons de bons joueurs. Mais le problème est que même cette compétition, nous l'avons vraiment pris avec assez de difficultés. D'abord, de ma part, je n'étais pas vraiment sûr que mon équipe devrait le remporter. Et cette année, 2015, on avait la chance parce que la plupart des grands clubs n'étaient pas là à la Ligue d'Amalek. Et c'est la raison pour laquelle mon équipe avait la chance un peu de y faire face cette année.
Voilà.
Vis-à-vis de l'année 2009 et 2010 où Mazembe était totalement fort à 100%.
D'accord, merci. Merci infiniment à Léopold Kalonga qui était en direct d'Afrique du Sud. On va maintenant en RDC où nous avons William Moulassi. Bonsoir William.
Oui, bonsoir.
Oui, et vous êtes très content hein, de la performance du TP Mazembe cette année. Que votre club, comme vous dites, oui, hein, depuis votre enfance.
Ah oui, évidemment, je suis trop content de prestations de notre club TP Mazembe.
En Coupe et d'Afrique, mais dessus. Et dessus de leur performance en Coupe du Monde, c'est bien ça, ce que vous avez écrit?
Ah, vraiment, par rapport à la Coupe du Monde, vraiment, je suis vraiment désolé. La population qu'attendait, je suis désolé, concernant de la prestation de Mazembe. Bien que les informations sont déjà en cours, qu'elles soient déjà acceptées.
Hop, je crois qu'on l'a perdu, hein, William Moulassi. On va peut-être essayer de le rappeler. Alors, Jules, je reviens à vous, hein, à Libreville. Jules, donc, les auditeurs ont déjà commencé à aborder cette question hein, du TP Mazembe qui a remporté sa cinquième coupe, son cinquième championnat d'Afrique donc en Ligue des Champions et aussi qui a pris cette raclée hein, en Coupe du Monde des clubs.
Oui, bien sûr, les deux extrêmes ouais. qui montrent qu'en Afrique, ce qui nous manque le plus, c'est la régularité et dans l'effort et dans la performance. Et donc là, le tout-puissant Mazembe qui règne déjà au niveau africain, qui aligne plusieurs trophées, ce qui est très bien parce que ça va lui permettre de capitaliser en termes de confiance et d'expérience avant d'aller un peu plus loin. Mais le tout-puissant Mazembe qui sert devant une équipe normalement à sa portée et qui a montré surtout les limites des équipes africaines et des joueurs africains jouant surtout sur le continent, notamment leur faiblesse au niveau des coups de pied arrêtés. Alors, si Mazembe est tombé et face à l'équipe japonaise dès le premier match, c'est surtout parce que cette équipe avait un avantage à ce niveau et l'a démontré, je crois, sur deux buts. Et les Africains doivent savoir que tout se joue actuellement sur les détails et que ce genre d'exercice, ça s'apprend pendant longtemps. On est dans toutes les équipes, il y a un spécialiste. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à cette performance du tout-puissant Mazembe cette année.
Voilà, donc la performance du tout-puissant Mazembe. Et donc, en ce moment, on va faire un arrêt hein, pour voir quels sont les autres événements sportifs qui ont marqué cette année 2015 en République démocratique du Congo. Et c'est avec notre confrère Valdo Simoyamba de TV50 à Kinshasa.
Bon, cette année 2015, tout touche à sa fin. On retiendra d'abord que les janvier, la République démocratique du Congo, à travers son équipe de Léopard Football, ont renoué avec la troisième place après l'année 1998. Ça fait troisième à la CAN, ce qui était une très très belle chose avec une nouvelle dynamique. C'est l'entraîneur Florent Dengue qui n'était pas attendu à ce rendez-vous-là. Il a fait l'essentiel avec sa nouvelle sélection. Il faut également parler du tour cycliste. Et puis, le vélo au Congo est en train de connaître sa défaissance. C'est déjà la troisième édition. Et cette troisième édition a été, ça répondait à la hauteur. Ça a été encore mieux organisé que les deux précédentes éditions. Et ça a été une très très bonne chose. C'est en fait que les fins fonds de l'Arctique démocratique du Congo est mis à découvert à travers cette édition. Vous savez, avec le vélo, il faut passer par les routes. Donc, c'est rendu possible, un bon marketing. Ça veut dire que le Congo se porte bien, il y a accalmie d'après tout ce qui se raconte autour de cette grande république au cœur de l'Afrique. Il faut également retenir cette participation aux Jeux africains. Oui, la RDC a bien participé aux Jeux africains avec notamment deux médailles d'or, ce qui n'est plus arrivé depuis Belirès. La RDC a renoué avec l'or aux Jeux africains et c'est le tennisman Denis Ndondo qui, en individuel et en équipe, a permis à la RDC et gagner deux médailles d'or. Et en termes de bilan, en ce qui concerne les Jeux africains, la RDC a fait mieux que ses précédentes participations à ce rendez-vous en doublant le nombre de médailles. Au total, 16 médailles.
Voilà, 16 médailles aux Jeux Olympiques cette année pour aux Jeux Africains, pardon, cette année pour la RDC. C'était notre confrère Valdo Simoyamba de TV50 à Kinshasa. Voilà, vous écoutez Sporama, c'est sur VOA Afrique au micro Bagassi Koura. Nous avons en ligne de Libreville notre consultant Jules Valentin Ngwe et à Boyikon au Bénin, Élisée Mpatine. Élisée, il y avait aussi la Coupe CAF, hein?
Oui, Bagassi, remporté par l'étoile sportive du Sahel. Oui. Et c'est vrai que cette équipe qui a connu beaucoup de difficultés lors des matchs de poule avant de se qualifier pour les demi-finales, même en demi-finale, eh bien, elle a connu beaucoup de frayeurs face aux Amalek du Quai, mais avant de se qualifier. Maintenant, l'adversaire, c'était l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates qui n'a pas démérité, une équipe qui s'est montrée vraiment vivantante à l'extérieur, j'allais dire, puisque elle a obtenu la plupart de ses résultats à l'extérieur, mais en finale face aux Tunisiens, entraîné par Benzetti, un entraîneur expérimenté qui connaît bien sûr le football des clubs africains, il faut le préciser, eh bien, en Afrique du Sud, et puis une victoire étriquée, la plus petite des marques, j'allais dire 1-0 du côté de Sousse, cette formation qui a remporté toutes les compétitions africaines des clubs, la Ligue des Champions, la Coupe CAF et même la Coupe des Coupes suspendue entre temps. Donc, c'est-à-dire que c'est un très bon résultat pour ce club tunisien qui est actuellement même leader du championnat tunisien de football de la première division, ouais, et qui a battu même le week-end passé l'expérience sportive de Tunis dans ce derby. 3-0, un joueur, Lema, qui est aux anges actuellement en très grande forme, celui-là même qui a permis à cette équipe de Sousse de remporter la Coupe CAF. Donc c'est-à-dire que pour cette année 2015, les Tunisiens n'ont pas démérité, puisque même si en Ligue des Champions, la Tunisie n'a pas connu de succès, eh bien en Coupe CAF, les Tunisiens qui ont répondu souvent présents dans ces compétitions des clubs ont marqué leur territoire, c'est-à-dire l'étoile sportive du Sahel qui est passée par là.
Voilà, et nous avons en ce moment en ligne de Brazzaville au Congo, Christian Laclasse, j'ai dit Christian, GM Laclasse Tendresse, c'est tout un nom. Hein. Bonsoir, GM.
Oui, bonsoir.
Oui, alors vous voulez revenir sur les performances du TP Mazembe.
Allô?
Oui, on vous écoute. Vous avez souhaité vous exprimer sur le TP Mazembe?
Oui.
Allez-y.
Je vous ai dit mal pour moi.
Oui, vous nous avez écrit sur notre page Facebook en disant que le TP Mazembe est un grand club d'Afrique et c'est le seul club à avoir joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, pour vous, c'est ce que vous écrivez, ce trophée de cette année-là, ce n'est pas étonnant. Et on voudrait avoir votre réaction.
Oui, effectivement, Mazembe, bon, par rapport à, comment dire, par rapport à ces quartiers des joueurs, c'est une grande club, c'est un grand club d'Afrique quand même.
Oui, allez-y. Mais, allô? Voilà, je crois que nous l'avons perdu. Il était en ligne de Brazzaville au Congo. Voilà, le sport cette année 2015, c'est aussi et surtout ce scandale de corruption qui n'a pas fini jusqu'à présent autour de la FIFA. Sepp Blatter, on le sait, longtemps indéboulonnable, a été contraint à la démission. Et nous accueillons dans cette émission Christian Mpanzou. Bonsoir Christian.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette affaire de scandale à la FIFA?
Alors ce scandale à la FIFA, il se joue en deux volets. Le premier volet, il commence en mai dernier, le 27 mai exactement, quelques jours seulement avant que Sepp Blatter ne soit reconduit officiellement à son poste à la tête de la FIFA pour un cinquième mandat. Une enquête du FBI aboutit sur l'arrestation de 14 personnes, dont 9 dirigeants de la FIFA pour racket, fraude et blanchiment d'argent, qui sont quand même des faits très graves, sur une période de 25 ans. Les soupçons de corruption portaient principalement sur le système d'attribution attributions de plusieurs Coupes du Monde et sur des contrats de marketing. Suite à cette enquête, suite à une enquête approfondie, plusieurs personnes ont été suspendues à vie, dont Jack Warner, c'est le personnage le plus cité dans cette affaire, ex-président de la CONCACAF. Et ça, c'est le premier volet de l'affaire. Le deuxième volet de cette affaire, c'est la fameuse affaire des 1,8 million d'euros versés par la FIFA à Michel Platini. Pour vous redonner un petit peu le contexte, à ce moment-là, Sepp Blatter est désormais président démissionnaire de la FIFA, puisque oui. Suite à tout le micmac qu'il y a eu, il a décidé de démissionner. La justice suisse se pose à ce moment-là des questions sur le versement d'une somme d'environ 1,8 million d'euros à Michel Platini de la part de la FIFA. Les deux hommes ont d'abord été suspendus pour 90 jours pour permettre à la justice de mener leur enquête. Et puis, suite aux délibérations du comité d'éthique de la FIFA, Michel Platini et Sepp Blatter ont tous les deux été suspendus 8 ans de toute activité liée au football.
Et pourtant, Platini avait toutes les chances de succéder à Sepp Blatter. Sepp Blatter qui a démissionné et qui laisse du coup sa place à l'Africain Issa Hayatou, qui a donc été propulsé à la tête de la FIFA. Et malgré ce contexte dans lequel Issa Hayatou accède à ce fauteuil, cela a suscité une énorme fierté nationale au Cameroun, comme nous le dit Jean-Bruno Tagnin, journaliste sportif à Yaoundé.
Ça a été considéré comme une fierté nationale au Cameroun, parce que M. Issa Hayatou, qui est depuis 1988 président de la Confédération africaine de football, aujourd'hui se retrouve président de la FIFA dans un contexte assez difficile. C'est une fierté nationale pour le Cameroun dans un contexte assez difficile, comme je vous le disais. Donc les Camerounais estiment que c'est une fois de plus le Cameroun qui est sous le feu de la rampe à travers M. Issa Hayatou, qui a beaucoup fait pour le football africain et surtout camerounais.
Alors, vous savez, avant ce scandale de la FIFA, il y avait du bruit concernant la retraite de Issa Hayatou. Est-ce que c'est une question qui est maintenant aux oubliettes?
Disons que pour l'instant, en général, au Cameroun, la retraite de M. Issa Hayatou, c'est un sujet presque tabou. Parce que, évidemment, nous sommes très sensibles à la question de l'alternance, que ce soit sur le plan politique ou alors sur en ce qui concerne un certain nombre d'instances, parce qu'il est là quand même depuis 1988, mais c'est toujours un peu mal perçu lorsque cela est évoqué au Cameroun, parce que si un Camerounais ose dénoncer le fait que M. Issa Hayatou soit à la tête de la TAF depuis 1988, il est taxé d'antipatriote.
Voilà, c'était notre confrère Jean-Bruno Tagnin qui a été joint à Yaoundé, au Cameroun. Alors Christian, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Eh bien, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations et remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Didier Drogba n'était pas là-bas, mais il s'est fait remarquer ailleurs.
Oui, il s'est fait remarquer au Canada, à l'Impact de Montréal, où il a signé un contrat de 18 mois en juillet dernier, ouais. Après avoir fait une saison à Chelsea. Il a inscrit 12 buts en 14 rencontres de MLS, ce qui n'est tout de même pas rien. Alors l'Impact de Montréal n'est pas allé très loin dans la compétition, ils ne sont pas allés très loin en play-off MLS, mais l'Impact de Montréal a fait tout pour garder Didier Drogba en ce moment, puisque Didier Drogba, il est de retour à Londres, il est de retour à Chelsea, où son ancien président Abramovich aimerait l'intégrer au nouveau staff de Chelsea pour la fin de cette saison et ensuite pour les années à venir, puisque Didier Drogba, à l'âge qu'il a, il a, je crois bientôt, il a déjà 37 ans, ouais. Il se pose évidemment la question de partir à la retraite, mais il a encore quelques mois de contrat avec l'Impact de Montréal. Alors Montréal et le club de Chelsea essaye de négocier un compromis pour que le joueur puisse disputer au moins une saison de plus en MLS et qu'ensuite il rejoigne Chelsea et le staff pour un poste d'entraîneur adjoint.
Voilà, merci Christian Panzo et passez une excellente année 2016. Meuve.
Merci beaucoup Bagassi. Bonne année à tous les auditeurs de Sportama et de la VOA.
Voilà, à très bientôt. Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sportama sur VOA Afrique qui tire à sa fin. Élisée, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan athlétisme? En athlétisme, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a un athlète qui s'est distingué cette année, qui a retenu votre attention?
Bien évidemment, il s'agit de Tirunesh Dibaba, hein, c'est une femme de
fer
qui remplace valablement une autre Dibaba qu'on connaît très bien. Et sa grand-sœur est là, elle a réalisé beaucoup de temps fort cette année, dans cette année 2015, elle a remporté pas mal de trophées et là, et elle s'est fait distinguer par ses performances, notamment lors des marathons courus un peu par-ci et par-là, et bien, elle a été à l'attraction de l'athlétisme dans un pays où c'est l'athlétisme roi, j'allais dire, donc c'est dire que c'est une personnalité considérablement épanouie cette année 2015, ouais. Elle peut courir sur les 3000 mètres et encore sur les 5000 mètres, donc elle s'est fait remarquer, notamment merci. Sur les 10000 ouais. mètres, c'était en 2008 du côté
merci.
De Pékin,
merci,
où,
Élisée.
Elle s'est fait distinguer, donc c'est dire que...
Voilà, merci Élisée, on est à court de temps, là on va revenir à vous Jules Valentin, et cette victoire en basketball du Nigeria sur l'Angola, l'Afrobasket 2015.
Oui. Oui, bien sûr, et pas seulement cette victoire, qui mais aussi le fait qu'il y a au moins six équipes féminines oui. qui se tiennent, parce que quelque temps après, il y avait la CAN à Yaoundé et le classement changeait. On a à peu près six équipes qui se tiennent, avec des joueuses jouant dans des grandes équipes dans le monde, en Europe en particulier, vraiment, le niveau des filles est devenu très relevé et les matchs sont très agréables à suivre.
Voilà, merci Jules Valentin Ngwe, Christian Mpanzu et Élisée Mpatina à Boïkan au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Le prochain Sporama, ce sera l'année prochaine en 2016. Merci et passez un excellent réveillon.